Variation en noir. Roman noir sur Radio PFM. Et littérature policière au pluriel. Variation en noir, rendez-vous mensuel dans Variation. Guy Le Polarski au micro, vous écoutez Radio PFM et vous avez rendez-vous avec les littératures policières. Variation en noir, c'est une émission réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, et en particulier avec un membre éminent de cette association, Hervé Delouche. Hervé Delouche qui est avec nous au téléphone depuis la capitale. Hervé, bonjour.
Oui, salut Guy, bonne année, même si on est début février.
Oui, pareil, hein. Et puis aux auditrices et aux auditeurs aussi.
Évidemment, c'est à eux et à elles, oui.
Voilà. Alors,
on s'adresse.
Il va être question aujourd'hui dans Variation en noir de contribution, au pluriel, à la promotion des littératures policières. Je pense que ça te parle, hein, comme formule, contribution à la promotion des littératures policières, Hervé. Genre de contribution.
On peut dire ça, oui. Ça a un vague rapport avec 813. Ouais.
Voilà, c'est le genre de contribution qui peuvent être distinguées par le prix Maurice Renault, un des trophées que remet chaque année l'association 813. Alors, je lève tout de suite le suspense. La première de ces contributions que nous évoquerons aujourd'hui n'obtiendra jamais le prix Renault Maurice Renault, puisqu'il s'agit du numéro 153, dernier en date, numéro 153 de la revue 813. Et 813 ne peut bien évidemment pas s'auto-décerner un prix. Nous sommes d'accord, Hervé.
Ah, complètement.
Voilà.
Oui.
Alors, par contre, nous verrons peut-être figurer au palmarès 2026 les deux livres dont nous parlerons aussi aujourd'hui. Tout d'abord, Les femmes de la série noire de Natacha Levé et Benoît Tadier aux éditions Gallimard. Et ensuite, Politique, au pluriel, Politique du polar de Lucie Amir aux éditions Amsterdam. Mais avant cela, Hervé, nous allons évoquer deux disparitions récentes qui ont endeuillé les littératures policières françaises, celles de Tito Taupin et de Roger Martin. Alors Hervé, triste nouvelle, nous venons d'apprendre la disparition de Roger Martin, un familier des festivals de polar, écrivain depuis plus de 30 ans, un amoureux du polar et de littérature en général, un adhérent de 813 et quelqu'un avec lequel tu as partagé beaucoup de moments, Hervé.
Oui, c'est même plus de 30 ans, puisque en fait, Roger Martin, et on s'est connus quelques temps après, il a commencé en 1981 avec un fanzine, comme on disait à cette époque-là, qui s'appelait Hard Boiled X, et qui a eu une vingtaine de numéros, et qui était en grande partie consacré au roman noir américain, à des gens qui sont maintenant en tout cas connus ou très connus, comme Don Tracy ou Chester Himes, mais aussi à des gens plus dans l'ombre, comme Michael Collins, comme... Robert Finnegan, et puis les derniers numéros de Hard Boiled X à la fin des années 80, c'était sur Sherman & Co, c'est-à-dire le fondateur en Italie du polar, hein, vraiment, et puis Manuel Vázquez Montalbán en Espagne, qui n'est plus, je pense, tellement à présenter, qui a été si important. Voilà, après Roger Martin, il a œuvré, il a créé un festival à l'époque, il vivait du côté de Longwy, à Mont-Saint-Martin, il a créé un festival de polar, un des premiers localement. Il a tellement de choses. Il aimait bien le terme de moocracker, c'est-à-dire, ça faisait référence à ce qu'il aimait, les moocrackers, ça veut dire dire racleur de boue, hein, en version originale, enfin en traduction. Et c'est ainsi qu'on a désigné, au départ, ça désignait de manière assez méprisante les journalistes et les romanciers enquêteurs, comme un Upton Sinclair et son livre La Jungle sur les abattoirs aux États-Unis. Et puis, ça a été employé pour désigner de façon méprisante Nelson Algren, John Steinbeck, voilà. Et Roger Martin, il se revendiquait de cet héritage-là. Il avait découvert le goût de la lecture avec très jeune, avec Jack London, avec tout Jack London, pas seulement les livres pour la jeunesse. Et puis après, bah, ça a continué. C'est un grand spécialiste de la littérature nord-américaine, du polar en tant que littérature à la fois, comment dire, captivante et en même temps sociale, historique, politique. Et puis, ça a été c'est un spécialiste. Il a fait un essai sur l'América, Voyage en Amérique fasciste. Un spécialiste du Ku Klux Klan. Il lui a consacré des livres, des bandes dessinées. Il a aussi écrit le premier livre à la fin des années 80, on redécouvrait Le salaire de la peur et d'autres livres, Les oreilles sur le dos, etc., de Georges Arnaud. Et il lui a consacré un livre bien avant que Philippe Génada fasse le très connu La Serpe. Et puis, il y a de multiples choses à raconter sur Roger Martin. Et récemment, il avait eu à l'époque, dans les années 80, le trophée 813 pour la revue Art Boldix, justement, et il l'a eu il y a 2 ans, beaucoup plus récemment, pour une étude consacrée à un romancier américain, Ed Lacy, un inconnu nommé Led Zinberg, aux éditions à plus d'un titre, qui était un auteur qu'il passionnait, et il a fait en sorte de rééditer ou éditer 2 livres, dont La mort du torero et auparavant Traque noire, qu'il a traduit et préfacé. Traque noire, dont je crois on avait parlé
tout
sur
à
cette
fait.
Antenne.
Dans Variation noire, effectivement. Ouais.
Voilà, et qui est le premier polar à avoir mis en scène un détective noir. Roger Martin, il fourmillait de projets, sur la couverture de Traque noire, il y a une voiture, justement, et c'est une voiture qui l'a renversée.
Oui.
Et voilà, terrible, terrible coïncidence. Et je dirais que j'ai envie de citer un autre auteur américain, un auteur que je crois on aime bien tous les deux, Guy, et à Variation en noir, qui est Russell Banks, qui nous a quittés il y a 3 ans exactement, et qui disait « La fonction de l'écrivain est de faire en sorte que nul ne puisse ignorer le monde et que nul ne s'en puisse dire innocent ». Russell Banks, qui sort des nouvelles sortes, la American Spirits, et voilà, je pense que ces mots n'auraient pas déplu à Roger Martin.
Oui, bel hommage Hervé, donc à Roger Martin, disparu brutalement, tu l'as dit, à 75 ans. Signalons aussi donc la disparition de Tito Taupin. Alors lui, il avait 80, plus de 90 ans, hein, 93 ans. Tito Taupin, auteur de Polar, et surtout co-créateur, enfin surtout, c'est pour cela qu'il était le plus connu, co-créateur de Navarro, hein, la série policière, célèbre série policière qui a fait date dans l'histoire de la télévision française. Et alors Tito Taupin, lui, c'est un parcours quand même assez assez étonnant. Il avait d'abord commencé par dessiner. Il avait réalisé les dessins de La Langouste ne passera pas, une des premières bandes dessinées
pour
adultes.
Oui, je crois que moi, c'est comme ça. La première fois que j'ai entendu parler de lui, j'étais gamin, c'était en 69, je crois, et c'est un album qui a eu un succès incroyable à l'époque. Hein,
alors, les textes sont de Jean-Yann.
Avec un scénario de Jean-Yann et des dessins de Tito Topin.
Oui. Et donc, en fin de compte, ils feront beaucoup de choses ensemble, hein, notamment les films, hein, Tout le monde, il est beau, Tout le monde, il est gentil, en 72, Moyen à vouloir des sous, etc. Et puis, petit à petit, Tito Topin, qui a eu un parcours personnel assez difficile, hein, une jeunesse assez compliquée, qui était quelqu'un de très, très indépendant, anti-autorité, anti-armée, etc. On explique qu'il a été rappelé à l'armée en août 55 et il passe 3 des 6 mois qu'il doit accomplir en prison. Il était au Maroc, qu'il a bien connu, et il n'acceptait pas la position, bien sûr, française dans ces pays. Et il a même, en 56, émigré au Brésil, hein, puisqu'il ne voulait pas participer à la répression militaire en Afrique du Nord. Alors en 1982, c'est un changement de cap. Là, il décide de se consacrer à l'écriture et publie un premier roman policier, Graffiti Rock, dans la collection Série Noire de Gallimard. Alors avec cette dernière phrase assez étonnante, je cite, « Il eut envie de hurler pour sortir de son cauchemar, le con ». Il ne faisait qu'y entrer. Voilà, c'est Tito Topin. Alors, il a publié plusieurs séries noires. Et citons aussi Hervé, un roman qui s'appelle Sur un air de Navarro. Alors, c'est dans la collection Suite Noire, une collection créée par notamment par Jean-Bernard Pluy. Quand la série noire format poche s'est arrêtée, Jean-Bernard Pluy a eu l'idée de créer quelque chose de nouveau, cette Suite Noire, et il a mis à contribution des ex-auteurs de la série noire. Et voilà.
Oui, avec un côté cartonné. Avec la consigne de ça imitait les séries noires première version, enfin cartonnées, avec ça jouait avec du bicolore, mais en évitant toujours le jaune et le noir qui étaient les couleurs de la série noire. Voilà. Oui. Et avec des titres qui étaient aussi en forme de jeu de mots.
À des titres des grands classiques. Absolument. De la série noire. Et donc, Sur un air de Navarro, bon, sacré clin d'œil, bien sûr, c'est en référence à Sur un air de Navarra de Chandler. Bon, publié sous son titre officiel par la suite, The Long Goodbye, mais la première édition en série noire avait pour titre Sur un air de Navarra. Et Jean-Bernard Puy, lui, pour la petite histoire, avait donné une suite noire, c'était le numéro 5, au titre vraiment très Jean-Bernard Puy, quoi, hein, c'est Le Petit Bluff de l'Alcotest, donc en référence bien sûr au Petit Bluff de la côte ouest de Jean-Patrick Manchette. Donc Tito Topin, Hervé, toi aussi,
Oui, ça a été, et notamment, moi, je voudrais, il y a un autre roman de lui, enfin, il y a beaucoup de choses qui méritent ça, mais il y a un roman que Pierre Fourniaud de la Manufacture de Livres a republié, d'ailleurs, qui est 55 de fièvre, qui date du début des années 80, juste vraiment un de ses premiers romans à la série noire, après Graffiti Rock, et qui se passe justement au Maroc en 55, et qui a eu à l'époque le prix Mystère de la critique. Et c'est là qu'apparaissait un héros qui va revenir, qui est l'inspecteur Émile Gonzalez, et qui va être une sorte de prototype de Navarro, personnage qu'a créé Tito Topin, mais par contre, ça ne l'a pas. Tito Topin a aussi écrit sur le système Navarro, qui était une critique très vive de la chaîne de télévision qui produisait la série en question. Voilà, et donc, c'est comme tu disais, ce côté toujours drôle, mais très fortement anti-autoritaire, on le sentait, puisque jusqu'à la fin, Tito Topin a tenu un blog, et c'était toujours assez, c'était toujours du rebrousse-poil et toujours de l'humour. Sitting in the morning sun. I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. 'Cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on a dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Sitting on a dock of the bay, wasting time.
Vous écoutez Radio PFM, Variation en noir, et donc illustration musicale pour terminer cet hommage à Roger Martin et Tito Topin avec The Dock of the Bay de Otis Redding, mais une chanson qui a aussi été composée par le guitariste américain Steve Cropper, membre des Blue Brothers entre autres. Et bon, j'ai pensé à ce morceau parce que Steve Cropper est mort au même moment que Tito Topin, et dans la page des disparitions du monde, il figure sur la même page. Mais je me suis dit que cette chanson quand même, je vous traduis le début: assis au soleil du matin, je serai toujours là quand le soir viendra, à regarder les bateaux rentrer au port, et je le regarderai repartir. Je suis assis sur le quai de la baie. Je me dis que ça ferait un super début de roman noir, Hervé.
Oui, absolument, absolument. C'est c'est très très bien trouvé, très bien.
Voilà.
Excellent choix.
Voilà, donc le guitariste américain Steve Cropper, co-compositeur de cette chanson avec une ballade posthume qui a été publiée après la mort d'Otis Redding. Alors nous en arrivons, Hervé, au numéro 153. Ça rime, ça ne rime pas, 153 avec 813. Avec 813, oui, ça pourrait rimer. Mais donc le dernier numéro en date de la revue 813. Alors un numéro, j'ai envie de dire vraiment en lien avec l'actualité internationale, et notamment de ce qui se passe aux États-Unis, puisque ce numéro nous propose un dossier, les relations raciales aux États-Unis, History of Violence. Alors bon.
Oui, je voudrais juste préciser que ce numéro, il a été conçu avant, évidemment, est réalisé, d'ailleurs est terminé, en tout cas après il y a le délai d'imprimeur, mais avant les assassinats commis par la police de l'immigration américaine, l'ICE à Minneapolis notamment, les 7 et 24 janvier, où ont été assassinés Renée Goode, une citoyenne de 37 ans, et Alex Preti, un infirmier de 37 ans également.
Oui, justement, je voulais te
Mais
demander, Hervé, toi qui es membre du comité de rédaction de la revue, oui, comment vous est venue l'idée de ce dossier, justement?
ben, ça faisait un moment qu'on avait l'idée de ce dossier, tout bêtement parce que ben, j'en reviendrai aux premiers travaux qu'a fait et aux premières sources d'intérêt qu'a eu Roger Martin, par exemple, au début des années 80. Mais il est évident que la littérature nord-américaine, et après quelqu'un comme Benoît Tadié, dont on reparlera tout à l'heure, mais est venu conforter cela et étudier en détail tout cela, mais notamment avec un essai, le roman noir américain, La modernité et le mal, qui était paru au PUF, je crois au début des années 2010, je ne sais plus. Et c'est évident que la littérature nord-américaine, elle a toujours été témoin, en tout cas partie d'entre elles, de cette Amérique qui, pour reprendre l'incipit d'un célèbre roman, n'a sans doute jamais été innocente, et comme on le dit dans l'édito de ce numéro, son melting pot tant vanté apparaît de plus en plus comme un chaudron où bouillonnent violence, injustice et indignité. C'est-à-dire que même si, bien évidemment, la politique et la fascisation du régime américain sous Donald Trump sont, comment dire, typiques comment accélère tout ce mouvement et donne une vision très, très, très évidente, très claire de cela, c'est quelque chose qui est à l'œuvre depuis toujours dans un continent qui s'est bâti avec d'un côté la Bible et de l'autre le fusil, c'est-à-dire A History of Violence.
Oui, alors donc un dossier très riche, effectivement, à conseiller non pas seulement aux amateurs des littératures policières, de polars, de romans noirs, mais à tout le monde, parce que c'est un sacré éclairage hein, sur la situation actuelle. Et le premier article hein, qui compose ce dossier, Race et caste aux États-Unis, un roman noir de Jack Lamer, qui est un auteur américain, un auteur noir américain qui vit en
Oui.
France. Et vraiment retrace un petit peu justement l'histoire hein, de race et caste aux États-Unis et fait une bonne synthèse avec j'ai vraiment apprécié hein, cette formule. Il écrit Jack Lamer, mais si la race en tant que fait scientifique n'existe pas. On parle d'une seule race humaine hein, et donc pas de race noire,
Oui.
race blanche, etc. Donc il écrit, si la race en tant que fait scientifique n'existe pas, le racisme en tant que réalité sociale, lui, existe. Et ça résume bien, je pense, la situation, Hervé. En tout cas, une bonne entrée
Oui,
en matière,
complètement,
cet
complètement.
article.
Et d'ailleurs, à cet article de Jake Lamar fait écho un article tout à fait intéressant aussi, à mon avis, de Patrick Barr,
Oui.
qui est l'invention du noir, c'est-à-dire comment ce terme racial a été inventé. Et il écrit, si la peau noire n'a pas été inventée, c'est la couleur originelle de l'humanité, ce qui a été inventé, ce sont les catégories raciales à des fins politiques, économiques, coloniales.
Oui, donc, premier article, Jack Lamer, qui retrace un petit peu l'histoire des relations raciales aux États-Unis. Donc, tu l'as
Oui,
dit,
tout à fait.
donc, un article intéressant. Alors, il faudrait que tu nous présentes Patrick Barr, Hervé, l'invention du noir, la frontière,
Ah ben oui.
un parcours aussi vraiment singulier que celui de. de Patrick Barre, Hervé?
Bah oui, parce que Patrick Barre, il était d'abord photographe. Il est allé, je crois que c'était avec Patrick Reynal, il faisait une
Oui.
espèce de reportage sur le blues, sur le delta du Mississippi. Il est allé, il a découvert la frontière, et on était à la fin des années 90, hein, la frontière entre
Oui.
les États-Unis
Et
et le
le Mexique.
Mexique.
Oui, il raconte,
Et
Hervé, il raconte qu'ils étaient en voiture, hein, ils avaient dû louer une voiture qui est tombée en panne d'essence juste à cet endroit-là. Et voilà, ça a été
voilà.
le déclic pour lui.
Ben voilà, complètement. Et il a arpenté ces plus de 3 000 km que dessine la frontière, qui n'a cessé d'être, comment dire, dont un mur a séparé, là aussi, pour empêcher l'immigration aux États-Unis. C'est en ça aussi que le pays du melting pot en prend plus que du plomb dans l'aile, cette image de la statue de la liberté accueillant les misérables du monde entier, elle est plutôt mise à mal. Mais et puis Patrick Barre, ça lui a donné, je crois, ce fait d'arpenter pendant plusieurs années, 3 ans, je crois, ces endroits, comment dire, Ciudad Juarez, El Paso. Et de découvrir ce lieu qui avait lui-même une existence, de découvrir aussi une existence misérable, mais une existence culturelle, de découvrir aussi les meurtres par dizaines, par centaines de femmes exploitées, les maquiladoras. Ça lui a donné l'idée d'un premier roman qui a eu un certain retentissement, qui s'appelait La Frontière. Je crois que c'était en 2004 ou quelque chose comme ça. Et puis, voilà. Et après, Patrick Barre, il est resté, comment dire, comme il dit, il a appris le Mexique par ce bout-là. C'est devenu son pays d'adoption. Voilà. Il y a découvert résistance et dignité.
Alors, bon, je sais aussi que tu avais sollicité Roger Martin,
Oui, Roger Martin,
tu aurais pu
absolument, tu
figurer.
es très bien renseigné. Oui,
Oui.
Roger Martin, évidemment, nous est tout de suite venu à l'idée, pour les raisons qu'on a déjà vues tout à l'heure. Nous est tout de suite venu à l'idée, pour un dossier comme celui-là. Roger Martin a été pris par un autre projet, et c'est lui qui nous a évidemment conseillé des noms qu'on retrouve dans ce numéro, et il était navré, on en a longuement parlé au téléphone, mais évidemment il nous a parlé de Benoît Tadier, qu'il remerciait d'ailleurs, parce que Benoît Tadier l'a aidé également pour ce livre consacré à l'auteur Ed Lacy. Et Benoît Tadier, qu'on retrouve dans nos colonnes pour un entretien d'une double page, je crois, sur la ségrégation dans la littérature.
Oui.
Voilà.
Benoît Tadier, grand spécialiste du roman noir américain.
Oui.
Et donc, il y a aussi des entretiens avec des auteurs noirs
Oui.
américaines, donc Atticah Locke, notamment, une auteure noire,
Oui.
une des premières auteurs noires dans le roman noir américain, qui base ses romans dans le Texas, d'où elle est, Texas rural, d'où elle est originaire. Hein, donc un entretien avec des propos recueillis par Jeanne Guyon. Et puis un entretien avec Cosby, Essay Cosby, de propos recueillis par Serge Breton, auteur pareil, hein, auteur américain, noir américain, issu du milieu très, très populaire et qui... Et qui, dans leur roman, on exprime, hein, en fin de compte, cette réalité sociale
Ah
des
oui.
Noirs américains.
Oui, Cosby, moi je conseillerais, pour le découvrir, un roman qui s'appelle La Colère, où on a deux personnages, Ike Randolph et Buddy Lee Jenkins. Le premier est noir, le deuxième est blanc, qui sont en Virginie-Occidentale. Et effectivement, même dans l'Amérique contemporaine, ça veut dire que tous les opposent. Et en même temps, ils ont toujours nié l'un comme l'autre l'homosexualité de leurs fils respectifs. Et leurs fils se sont mis ensemble et leurs fils sont assassinés. Et à partir de là, eh bien, une immense douleur et une culpabilité mêlées vont faire qu'ils vont difficilement au départ, mais ils vont unir leurs efforts et c'est un roman extrêmement addictif, voilà, où la violence n'est pas gratuite et où le racisme est disséqué de manière assez formidable quand même. Cosby, c'est vraiment un auteur à suivre.
Oui, alors voilà, dans ce dossier, bon, les relations raciales aux États-Unis, une histoire de violence, hein, citons aussi les articles consacrés au peuple natif d'Amérique du Nord, hein, les Amérindiens, avec bien sûr un article autour des Navajos selon Tony Ellerman, et aussi un article consacré par sa traductrice, à Stephen Graham Jones, qui est un auteur
Oui.
de thriller, hein, d'origine Blackfeet, hein, qui a grandi au Texas et qui a donné un certain nombre de romans aux éditions Rivage, dont Un bon indien est un indien mort,
Absolument.
Voilà, hein, qui sont des livres. Alors on pourrait en citer d'autres, des auteurs amérindiens qui ont aussi leur place dans la littérature en général, mais dans le roman noir, Justice indienne, entre autres.
Oui.
J'ai perdu le nom de l'auteur. Peut-être tu l'as, toi, Hervé, de Justice indienne, un roman.
Justice indienne.
C'est chez Gallmeister, c'est paru.
Oui, oui, oui,
Il y
oui.
a un
Ben, je
peu.
sais, puisque je crois que nous en avons dit deux mots, ou
Oui,
en tout
oui, oui.
cas,
Bon,
je crois que c'est un nom assez compliqué qui est David S.K.
voilà.
Wambly Weyden.
Exactement. Donc,
Je n'ai pas beaucoup de mérite, il est dans ma bibliothèque. Donc voilà.
donc un dossier très riche. Donc, nous l'avons dit, en lien avec l'actualité aux États-Unis, et en particulier ce qui s'est passé à Minneapolis. Alors, dans ce numéro, on retrouve aussi des rubriques habituelles, Casse Noire, les Polaroïdes,
Oui, il y
le
a un long
regard sur la.
entretien avec Frédéric Pollin.
Aussi, oui, j'allais venir, hein,
Voilà.
par Jean-Noël Levavasseur,
Oui.
vraiment intéressant, hein, qui reprend le parcours tout le parcours de Frédéric Pollin, son arrivée dans la littérature, etc. Passionnant. Bon, il y a nous, nous les avons déjà donnés, bien sûr. Il y a les trophées 2025 813, et puis une
Oui.
nouvelle aussi de Daniel Thierry,
Voilà,
Chimère. Voilà. Donc, un. Vas-y,
absolument. Et
oui.
puis il y a une chronique musicale
Oui.
que j'ai beaucoup aimée de l'auteur Sébastien Vidal, dont je crois on reparlera de son dernier roman, Une saison de colère, dans une prochaine émission.
Dans notre
Et
prochaine émission, voilà. Et on écoutera donc
n'est-ce pas?
le morceau qu'il évoque dans la prochaine émission, Hervé.
Très bien,
Voilà. Et là,
avec
je...
Brothers in Arms. Et puis
Oui.
il y a aussi quand même une chronique, je tiens à la signaler, qui nous est due, je crois, qui est sur
Oui.
qui est la rubrique Seconde Chance, qui est consacrée à Amber Nave, que ressort Rivage dans ses Iconiques. François Guérif a choisi ce titre de Jean-Hugues Hoppel, qui est Amber Nave, qui est à découvrir absolument.
Voilà. Et alors, une illustration, ben voilà, on ne pouvait pas faire autrement que passer ce morceau. Je vous laisse découvrir pour illustrer un morceau pour illustrer le dossier de ce numéro 153.
A city of flame fought fire and ice neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. against smoke and rubber bullets in the dawn's early light. Citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, and two dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee Good. Oh, Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Trump's federal thugs beat up on his face and his chest. Then we heard the gunshots, and Alex Pretty lay in the snow dead. Their claim was self-defense, sir. Just don't believe your eyes. It's our blood and bones and these whistles and phones against Miller and Noam's dirty lies. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice crying through the bloody mist. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis.
Vous écoutez Radio PFM, Variation en noir. C'est eh bien, le morceau qu'a composé tout spécialement Bruce Springsteen pour les événements récents de Minneapolis.
Ah, oui.
Hein, ça s'appelle Streets of Minneapolis. Et effectivement, le milieu artistique, enfin une partie des milieux artistiques américains se mobilise particulièrement en ce moment contre la politique anti-immigration menée par Trump. Voilà, donc Bruce Springsteen a réagi très rapidement et ce morceau on le trouve très très facilement, il l'a mis à disposition de toutes et tous. Alors Hervé, bon, il nous reste peu de temps, donc ce que je te propose c'est que le livre politique du polar de Lucie Amir aux éditions Amsterdam, on se le garde au chaud pour un prochain Variation en noir. Par contre, quelques mots de Les femmes de la série noire de Natacha Levé et Benoît Tadier. Donc, on en a évoqué une, Attica Locke, qui a publié en série noire. Mais ce roman, bon, qui est, enfin, ce livre, l'absus est révélateur parce que on peut presque dire que ce livre se lit comme une série noire, comme un roman. Bon, on n'ira pas jusque là, mais ça se lit vraiment très très facilement. Évoque la place des femmes dans la série noire, alors surtout dans la période du fondateur de la série noire, Marcel Duhamel, entre 1945 et 1977. Et d'ailleurs, c'est peut-être une frustration, hein, c'est que on aurait aimé, peut-être à la fin du film, du livre, une conclusion qui aurait pu faire le lien entre cette période et puis ce qui se passe aujourd'hui à la série noire, mais peut-être qu'il y aura une suite à ce livre de Natacha Levé et Benoît Tadier. Donc, qui montre que elles ont joué un rôle important. Alors, pas forcément comme au début, comme auteurs, au niveau de la conception de la collection, au niveau des traductions aussi d'un certain nombre de romans, mais il y a aussi un certain nombre d'auteurs, de femmes de la série noire. Hervé.
Oui, alors, ben, par exemple, il y a, c'est intéressant parce que c'est Germaine Gibart qui a trouvé comment dire, qui a trouvé le graphisme de la collection. Et par ailleurs, c'est aussi ce qui est très intéressant, c'est que ce livre, il met l'accent sur le rôle de, parce que évidemment, Marcel Duhamel était un homme, mais il était entouré de femmes pour. Et le livre nous parle de choses qu'on connaît mal, comme l'acquisition, le rôle essentiel de l'acquisition des droits, c'est-à-dire le processus éditorial des textes américains, les traductions, comme tu l'as dit, comment, à l'époque, il y a un mot d'ordre. Qui est dictée par une pagination courte, stricte, efficace. Donc, eh bien, il va y avoir évidemment, et ça a été largement critiqué et rétabli, mais c'est aussi la loi du marché de l'époque. Il va y avoir tout un ton série noire qui est donné par des plumes très souvent féminines pour une littérature qui est destiné essentiellement à des hommes, ce qui est assez cocasse. Mais par ailleurs, le rôle très important des femmes, avant, comme tu le dis, qu'aujourd'hui elles soient, ce soit aujourd'hui un rôle primordial dans l'édition, et notamment l'édition de Polar et de Roman Noir, qui est très, très majoritairement féminin. Mais il y a un rôle déjà très important qu'on ignorait sur la série noire. Et par ailleurs, donc Natacha Levey et Benoît Tadié, dont on connaît les très grandes connaissances sur le roman noir. Natacha Levey, elle a eu justement le trophée 813 pour le roman noir Une histoire française. Et Benoît Tadié, il l'avait eu auparavant. C'est un grand spécialiste de la littérature nord-américaine, comme on l'a dit. Et après, il va y avoir aussi des arrêts sur quelques autrices femmes de la série noire qui ont été jusqu'à ce qu'aujourd'hui, par contre, il y ait beaucoup de femmes qui écrivent des polars et des romans noirs, mais à l'époque, il y en avait peu. Mais il y a notamment des portraits je crois, de femmes vraiment superbes, dont des livres ont été d'ailleurs ressortis en série noire classique, comme je pense à Factrice, Triste Factrice de Dolores Hitchens, par exemple, où on a parlé ici de Maria Fagias, de j'oublie, tu vas me rafraîchir la mémoire.
Marty Holland, Gertrude Walker à contrevoix.
Voilà,
en fin de compte,
Gertrude
les
Walker à
cinq.
Contrevoix, bien évidemment. Enfin bon, voilà. Jusqu'à ce qu'une Française arrive, qui est Janine Oriano, je crois.
Oui, c'est ça. Donc, effectivement, en écho à ce livre, Les femmes de la série noire, il faut se replonger hein, dans ces romans des premières auteurs femmes de la série noire, des auteurs américaines qui sont réédités dans la très belle collection hein, classique de la série noire, avec des préfaces inédites à chaque fois. Et bon, moi, j'ai sous les yeux là, Marty Holland, L'Ange déchu, que j'ai lu, avec une préface inédite de Benoît Tadié. Vraiment un roman très 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 intéressant. Et donc, signalons aussi que la série noire est actuellement dirigée par une femme, Stéphanie de Lettré, que nous avons interviewée pour les 80 ans de la fameuse collection Hervé.
Oui, Stéphanie de Lestrée, effectivement, et ça fait très plaisir qu'une femme comme elle, justement, dirige aujourd'hui la série noire. Comme tu le disais, c'est la première fois que cette collection a été confiée à une femme. Et elle-même, d'ailleurs, je crois, fait une introduction, un préambule à ce livre, Les femmes de la série noire, où elle salue l'éclairage d'un pan de l'histoire de la collection souvent laissé dans l'ombre. Et elle salue le travail de Natacha Levet et Benoît Tadier. Et tout ça, et voilà, on a commencé avec Roger Martin, et tout ça me semble faire une relation forte. Voilà.
Voilà, merci Hervé. C'était Variation en noir dans Variation, une émission mensuelle de Radio PFM réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, en particulier donc avec Hervé Delouche. Hervé, au revoir.
Au revoir Guy, au revoir à toutes et à tous et bonne lecture.
Voilà, et rendez-vous dans un mois.